écoutez RFI, il est 19h à Paris, 17h temps universel.
Paul Lonsin-Spinelli.
Et nous sommes ensemble pour 30 minutes consacrées à l'actualité internationale. Dans 10 minutes, accent du monde pour un éclairage de nos rédactions en langue étrangère sur les grandes actualités du moment, avec en premier lieu le temps du recueillement pour des milliers de fidèles catholiques à la veille des obsèques à Rome du pape François décédé lundi. On se penchera aussi sur les chiffres des morts dans les rangs russes en Ukraine, sur l'avenir du guide suprême iranien en pleine négociation avec les États-Unis sur le dossier du nucléaire, et puis sur l'arrestation du président de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme. Sophie Malibaud, elle, recevra le juriste Valère Ndior, auteur d'un tout nouveau dictionnaire de l'actualité internationale. Ça sera le sujet au cœur des dessous de l'Infox à partir de 17h30 TU. Toute l'actualité sportive avec Babacar Diarra et les derniers réglages pour le Paris Saint-Germain avant la demi-allée de la Ligue des Champions contre Arsenal la semaine prochaine. Paris qui affronte Nice ce soir en Ligue 1, le journal des sports, ce sera autour de 20h15, heure de Paris. Vous avez le programme, bienvenue si vous nous rejoignez. Mais avant cela, le journal, c'est avec Alban Le Prince. Bonsoir Alban.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous.
Et avec à la une, cette discussion qui aura duré 3 heures.
Vladimir Poutine, le président russe, a reçu aujourd'hui au Kremlin Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Tous deux ont discuté d'une proposition américaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine et ont évoqué de possibles négociations directes entre Moscou et Kiev, même si elles semblent pour l'instant dans l'impasse. D'ailleurs, dans un entretien au magazine Time paru aujourd'hui, Donald Trump, le président américain, a une nouvelle fois répété que la Russie garderait la Crimée annexée en 2014. Pas question pour Kiev qui travaille sur un plan alternatif avec les responsables européens, Vincent Souriau.
Ce texte mis au point à Londres entre l'Ukraine et ses alliés européens fixe une condition stricte. Avant toute chose, il faut conclure un cessez-le-feu piloté par les États-Unis. Sans cette trêve, pas question de négocier une quelconque concession territoriale. Les garanties de sécurité, elles doivent être robustes. Les signataires admettent qu'il n'y a pas de consensus autour d'une possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais ils exigent de pouvoir stationner des troupes sur le sol ukrainien sans aucune restriction afin de garantir l'application d'un futur accord de paix. La répartition des zones de conflit, elle doit, selon les Européens, se baser sur la ligne de front actuelle. Avec un élément important, l'Ukraine retrouve le contrôle de la centrale de Zaporijjia en collaboration avec les États-Unis. Et elle obtient un droit de passage sans entrave sur le Dniepr, le fleuve qui traverse le pays du nord au sud. Enfin, ce projet d'accord prévoit la reconstruction totale des zones sinistrées et une compensation financière versée par la Russie pour les pertes essuyées par l'Ukraine. En échange, Moscou obtiendrait une levée progressive des sanctions, mais une levée réversible en cas de violation de l'accord de paix.
Vincent Souriau.
La Chine dénonce une infraction au droit international.
Après la signature d'un décret hier par Donald Trump qui prévoit d'ouvrir l'extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds océaniques, y compris dans les eaux internationales, cela concernerait principalement les nodules polymétalliques, une sorte de galets riches en minéraux comme le manganèse, le nickel ou encore le cuivre. En prenant cette décision, le président américain veut sécuriser l'approvisionnement de son pays, concurrencer Pékin, mais de nombreux États et associations dénoncent ce passage en force, Igor Strauss.
Pour les défenseurs de l'environnement, cette décision est avant tout une catastrophe écologique. Des espèces et des écosystèmes qui abritent des formes de vie uniques pourraient être détruits avant même qu'on commence à les étudier, faisant peser un risque majeur sur la séquestration de carbone de l'océan qui régule la température de notre planète. Mais il dénonce également une violation du droit international. Anne-Sophie Roux, conseillère en politique maritime.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est le texte qui régule ce que l'on a le droit de faire et de pas faire dans la haute mer, c'est-à-dire la moitié de la surface de la planète, stipule qu'aucun pays ne peut s'arroger le droit de miner les fonds marins de manière unilatérale. Et donc, en fait, c'est un peu un pied de nez au multilatéralisme, parce que, voilà, encore une fois, dans les eaux américaines, évidemment, les États-Unis font ce qu'ils veulent, mais dans les eaux internationales, là, c'est le moment ou jamais de faire respecter le droit international et d'empêcher ça.
Cette annonce des États-Unis n'est pourtant pas une surprise. Lors des négociations de l'Autorité internationale des fonds marins en mars dernier, la société canadienne The Metals Company, qui souhaite mettre en œuvre le premier projet d'extraction commerciale des fonds marins, avait demandé le feu vert à un Donald Trump plutôt réceptif. À l'époque déjà, la Chine et la Russie accusaient les États-Unis d'enfreindre le droit international.
Igor Strauss. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Oman tout à l'heure, à la veille de nouvelles discussions sur le nucléaire avec les États-Unis, les troisièmes. Selon Téhéran, des progrès sont possibles si Washington fait preuve de bonne volonté.
78 morts en 24 heures à Gaza. C'est le dernier bilan des frappes israéliennes communiquées par le ministère de la Santé du Hamas.
Et sur place, la situation devient de plus en plus catastrophique. L'aide n'entre plus depuis le 2 mars. Et le programme alimentaire mondial des Nations Unies affirme avoir épuisé tous ses stocks en Cisjordanie occupée. Aussi, les violences font rage. La situation est restée particulièrement tendue cette semaine à Naplouse, Jenin et les raids israéliens se sont intensifiés ces dernières heures, tout comme les attaques de colons. Les précisions à Ramallah pour RFI d'Amira Suilem.
Officiellement, Israël dit lutter contre les groupes armés palestiniens. L'armée a d'ailleurs annoncé avoir saisi des armes et déjoué une attaque terroriste lors d'une opération aujourd'hui à Qalqilia. Mais ces opérations, qui s'accompagnent aussi de destructions massives d'infrastructures et de maisons par centaines, sèment le doute sur leur véritable objectif. D'autant que l'armée israélienne est accusée d'inaction face aux attaques des colons qui se multiplient aussi ces derniers jours. Visage masqué, barre de fer ou arme à la main, ceux-ci incendient ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Maisons, voitures, arbres, comme cette semaine à Sinjil, une localité au nord de Ramallah. Un Palestinien est mort lors de cet assaut, une semaine endeuillée puisqu'un enfant de 12 ans a été tué par l'armée israélienne mercredi aux abords de Jenin. Jenin, où l'armée israélienne a été vue en train d'installer des grilles en fer à plusieurs points d'entrée du camp de réfugiés de la ville. De plus en plus, les localités palestiniennes de Cisjordanie occupées ressemblent à des îlots, on peut même dire, à des prisons à ciel ouvert. Une stratégie de l'encerclement et de la terreur qui a fait dire hier au journal de gauche israélien Haaretz que bien que non annoncée formellement, l'annexion de la Cisjordanie est déjà là sur le terrain. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
En Syrie, au moins 11 civils alaouites, la minorité dont est issu Bachar al-Assad, chassé au pouvoir le 8 décembre dernier, ont été tués ces dernières 24 heures. Cela s'est passé lors de perquisitions menées par les forces de sécurité syriennes de Homs, dans le centre du pays. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Les portes de la basilique Saint-Pierre de Rome viennent de se fermer.
Oui, depuis mercredi matin, plus de 150 000 personnes sont venues rendre hommage au pape François, comme Emmanuel Macron, qui s'est recueilli il y a quelques minutes devant sa dépouille. Ses funérailles, elles, auront lieu demain matin, place Saint-Pierre, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État comme Donald Trump, le président américain, qui devrait atterrir ce soir vers 23 heures. 200 000 personnes sont également attendues, de nombreuses délégations de religieux venues du monde entier aussi, comme l'a constaté Daniel Valo, l'envoyé spécial de RFI.
Mon nom est Pfarrer Roland Elsner. Ich bin katholisch.
Veste noire, col blanc et sourire affable, le père Roland arrive de Görlitz en Allemagne de l'Est. Ce prêtre catholique voulait à tout prix assister aux funérailles du pape François.
D'abord, on a essayé de réserver un vol, mais tout était complet. Plus un seul billet. Alors on a pris la voiture, on a fait 15 heures de route par l'Autriche, et maintenant on est juste content d'être là et de dire au revoir au pape.
Au revoir zu sagen.
Ils viennent d'Europe, mais aussi d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Des milliers de religieux seront présents ce samedi aux funérailles. Dignitaires de haut rang ou simples nonnes comme sœur Yvonne, une religieuse péruvienne que nous rencontrons aux abords de la basilique Saint-Pierre.
La place Saint-Pierre est le nombril du monde, le cœur de la chrétienté. Et il y a des gens ici de toutes les cultures, de toutes les langues. On voit qu'avec son message de miséricorde et de pardon, le pape a touché le monde entier.
Seul bémol pour les religieux qui ont vécu il y a 20 ans les funérailles de Jean-Paul II, l'affluence est bien inférieure aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. J'avais attendu 32 heures pour pouvoir entrer dans la basilique Saint-Pierre, se souvient le père Roland. Il ne m'a fallu cette fois que 2 heures pour y parvenir. Daniel Valo, Rome, RFI.
Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annonce ce soir ne pas être certain de pouvoir se rendre aux funérailles du pape François comme il l'avait pourtant prévu.
Et ses obsèques ainsi que l'héritage du pape François, on en reparle dans 2 minutes dans Accent du Monde.
En France, au lendemain d'une attaque au couteau qui a fait 1 mort et 3 blessés dans un lycée de la ville de Nantes, dans l'Ouest, le procureur donne des précisions. Le suspect, un élève qui est hospitalisé depuis hier soir, a donné 57 coups de couteau à sa camarade décédée. Pour l'instant, il affirme qu'aucun mobile ne peut être évoqué de manière certaine, mais que l'auteur de cette attaque extrêmement solitaire est fasciné par Hitler et, je cite, à l'évidence suicidaire.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Alban Le Prince.